Le journal de Frédéric Barrère.
Bonsoir à tous. Marine Le Pen a agacé la candidate du Rassemblement National demande à ceux qui veulent partir de le faire maintenant. La crise de nerfs se poursuit au Rassemblement National. Échange tendu entre les équipes de Marine Le Pen et ceux qui sont soupçonnés de vouloir rejoindre Éric Zemmour à Lyon. Dans un meeting plus calme, Yannick Jadot a présenté aujourd'hui son programme pour une République écologique. Mais nous irons d'abord à Toulouse où les recherches se poursuivent pour retrouver un patient réputé dangereux qui s'est enfui dans l'hôpital psychiatrique. Marion Botorel, dans un instant. Dans ce journal également, l'exploit en football de Versailles qui se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe de France. Victoire 1-0 face à Toulouse. Le temps pour demain, souvent gris sauf sur le sud-est. Amélioration en cours de journée sur le nord. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition.
France Inter.
C'est la quatrième fugue d'un hôpital psychiatrique en 10 jours à Toulouse. Un homme s'est à nouveau enfui de l'hôpital psychiatrique Gérard Marchand. Cet individu de 43 ans est connu pour des faits de viol. Il est réputé dangereux. L'homme est activement recherché par la police à Toulouse. Le maire de la ville, Jean-Luc Moudinc, n'a pas caché son inquiétude. De leur côté, les riverains de l'hôpital Marchand se montrent solidaires avec le personnel soignant de l'hôpital. Reportage à Toulouse, Marion Botorel.
Cet homme de 43 ans est toujours recherché, mais Didier n'a aucune inquiétude.
La police va le retrouver rapidement. On fait confiance à nos forces de l'ordre.
Il est riverain de l'hôpital Marchand, comme Julien. C'est 4 fuites d'affilée. Ils sont donc au courant, mais n'incriminent personne.
Et j'ose espérer que voilà, les pouvoirs publics vont mettre les choses en place et trouver une solution à tout ça. Mais encore une fois, c'est un hôpital, pas une prison, donc ça ne m'inquiète pas plus que ça.
Une solidarité unanime envers le personnel médical est évidemment partagée par Élodie, puisqu'elle est infirmière.
Ce qui est inquiétant, c'est surtout les conditions de travail... du personnel et la manière où c'est pris en charge. Je pense surtout au personnel qui doit être un peu dépassé par la situation.
Mais elle reconnaît quand même que ces disparitions en série peuvent interpeller.
J'avais jamais pensé que oui, ça aurait pu arriver aussi fréquemment dans une semaine, mais bon.
Du jamais vu aussi pour Guylaine et Bernard en 50 ans de voisinage avec Marchand.
C'est vrai que là, on a des éléments antérieurs qui montrent qu'il y a eu des défauts. Bon, ça fait 4, ça fait beaucoup, mais ça peut arriver. Il y en a qui s'en vont, il y en a qui restent, il y en a qui sont dangereux, il y en a qui sont réussis. Il y en a qui ne sont pas détectés encore. Il y a des gens qui ont des problèmes psycho. Bon, mais ils sont là, ils sont là.
Ces Toulousains en sont convaincus. Pour éviter de telles fugues, il faudrait plus de moyens pour la psychiatrie. À voir si l'ARS aussi le préconise après l'inspection de l'hôpital.
Et puis à Paris, un homme de 29 ans, policier au Blanc-Mesnil, est activement recherché depuis hier soir. Il est soupçonné d'avoir tué sa compagne à Paris dans le 19e arrondissement. Le parquet de Paris a ouvert une enquête du chef d'homicide volontaire sur concubin. L'homme, connu pour des violences conjugales, serait armé. La politique ce samedi avec un recadrage ferme au Rassemblement National sur fond de psychodrame au sein de la famille Le Pen après l'hésitation hier de Marion Maréchal tentée par Éric Zemmour. Depuis Madrid, où elle participe à une réunion des dirigeants d'extrême droite, Marine Le Pen, interrogée sur d'éventuelles nouvelles défections dans son camp, a sommé ceux qui veulent partir de le faire maintenant. Et le ton est monté entre les équipes de Marine Le Pen et l'eurodéputé Nicolas Bay, dont le nom circule parmi ceux qui pourraient quitter le RN. Et donc le feu est loin d'être éteint au Rassemblement National, Simon Le Baron.
L'enjeu pour Marine Le Pen, c'est que l'incendie ne dure pas trop longtemps. De nouveaux ralliements à Éric Zemmour paraissent inéluctables, celui de Marion Maréchal donc, sans doute ceux de Nicolas Bay ou du sénateur Stéphane Ravier. L'objectif du RN est d'éviter un feuilleton des défections.
La presse parle à tort de prise de guerre, de ralliement, de trahison même. Non, il y a des gens qui nous rejoignent. Des gens prestigieux, des gens de qualité.
Car c'est précisément ce que cherche le camp Zemmour. Dans une vidéo postée cet après-midi sur les réseaux, il met en scène les ralliés du RN et d'ailleurs. Côté le péniste, on cherche à se rassurer. Vous vous souvenez de ceux qui ont trahi Chirac pour Balladur en 95? Pasqua, Sarkozy, c'était un autre niveau et ils ont perdu quand même, tacle un proche de la candidate. Ce stratège historique rit jaune en se souvenant au passage du divorce Le Pen-Maigret de 98. Bruno Maigret, ancien numéro 2 du FN devenu ennemi juré, qui apporte justement aujourd'hui son soutien à Éric Zemmour. Comme l'éternel recommencement d'une guerre qui reste fratricide à l'extrême droite, sans bousculer pour l'instant les grands équilibres politiques.
Simon Le Baron. Et puis à Lille, la maire socialiste Martine Aubry a appelé aujourd'hui à un rassemblement contre l'extrême droite le 5 février prochain, jour du meeting d'Éric Zemmour. Pour Martine Aubry, Éric Zemmour n'est pas le bienvenu à Lille. La campagne plus calme chez les écologistes, Yannick Jadot en meeting à Lyon, a présenté son programme pour une République écologique et pour en finir avec l'inaction climatique. Le candidat écologiste à la présidentielle a également présenté son nouveau slogan « Changeons ». Sur place à Lyon, Benjamin Mathieu.
Il voulait montrer l'étendue des possibles, présenter les 120 propositions de la République écologique à laquelle il aspire, tout en donnant du souffle, voire du coffre, dont il n'a pas manqué.
Un seul objectif, transformer l'espoir en victoire. Gagner, gagner, gagner.
Yannick Jadot met du cœur à l'ouvrage pour mobiliser les écologistes derrière lui, s'appuyant sur sa base.
Oui, nous en sommes fiers de nos maires écologistes. Applaudissez-les, ces maires que vous avez entendus tout à l'heure.
Et multipliant les attaques contre le monde de la finance.
Les amis, si vous avez des actions chez Total, c'est le moment de vous en débarrasser. Parce que dans quelques mois, ce sera chaud pour Total.
Mais l'enjeu de ce projet des possibles se veut aussi social.
Ce sera notre grande fierté. Nous éradiquerons enfin en France la grande pauvreté. Nous créerons un revenu citoyen qui ne laissera personne sous le seuil de pauvreté. Aujourd'hui, annonce 120 euros.
Car le candidat écologiste doit montrer qu'il n'est pas un simple spécialiste du climat, mais qu'il peut emmener avec lui des électeurs de gauche qui se cherchent toujours un vote utile.
Et puis en déplacement aujourd'hui à Grenoble en Isère, Jean Castex a reçu un accueil particulièrement hostile. Le Premier ministre a été insulté et pris à partie dans le quartier de la Villeneuve entre Grenoble et Échirolles. Jean Castex devait participer à un comité interministériel pris à partie par une dizaine de manifestants et des antivax. Au cri de Castex en prison ou encore assassin, la visite à Villeneuve du Premier ministre a été écourtée. En Italie, les partis de la coalition au pouvoir sont tombés d'accord pour réélire le président sortant, Sergio Mattarella. Âgé de 80 ans, le président Mattarella accepte finalement d'effectuer un second mandat. L'élection de son successeur s'éternise depuis le début de la semaine dans un parlement où ni la gauche ni la droite ne disposent de la majorité et un huitième tour de scrutin doit avoir lieu ce soir. Sur place à Rome, Bruce de Galzin.
Une véritable commedia dell'arte s'est jouée toute la semaine pour qu'au final, le même président soit réélu pour 7 ans. Les 1009 grands électeurs, composés de tous les parlementaires et des délégués des régions, n'ont pas réussi à s'entendre. Alors ils ont appelé Sergio Mattarella au secours. À droite, Matteo Salvini a tenté de jouer les faiseurs de roi, mais n'a pas été suivi par sa propre coalition. Silvio Berlusconi, lui, s'était brûlé les ailes en se portant candidat. À gauche, le Parti démocrate n'a pas lancé une seule candidature et s'est opposé systématiquement aux candidats proposés par la droite. Quant au mouvement 5 étoiles, beaucoup n'écoutaient même pas les consignes de leur chef Giuseppe Conte. Tous ces chefs de parti étaient critiqués chaque jour un peu plus et les parlementaires ont commencé à voter comme ils le souhaitaient, le nom de Mattarella revenant sans cesse. L'Italie évite ainsi une crise politique car le président, mais surtout le chef du gouvernement Mario Draghi, reste en place jusqu'aux prochaines élections législatives dans à peine plus d'un an. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
L'Union européenne veut investir des dizaines de milliards d'euros et multiplier par 4 sa production de puces électroniques. La pénurie de semi-conducteurs due à la pandémie de coronavirus dans le monde a montré la trop grande dépendance de l'Europe envers les fournisseurs asiatiques et les effets de cette pénurie continuent de se faire sentir et Bruxelles réfléchit au coup d'après. La Commission européenne va présenter début février un plan pour que l'Europe devienne leader sur les prochaines générations de puces électroniques. À Bruxelles, Laxmilota.
Ces semi-conducteurs sont utilisés dans l'industrie automobile, mais aussi pour la fabrication des ordinateurs, téléphones portables ou consoles de jeux. Nous sommes dépendants des microprocesseurs les plus avancés fabriqués en Asie, dit la présidente de la Commission européenne. L'enjeu est notre souveraineté technologique, ajoute-t-elle. L'Union européenne veut donc devenir leader mondial de la prochaine génération de puces pour le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton. Un objectif ambitieux, mais le commissaire argumente « L'Europe est déjà leader mondial de la recherche dans les semi-conducteurs ». Le plan prévoit de multiplier par 4 la production de ces puces dans l'Union d'ici 2030. Des dizaines de milliards d'euros seront investis à la hauteur des États-Unis, détaille Thierry Breton. Les États-Unis qui ont annoncé un plan de 52 milliards de dollars dans le secteur. Bruxelles, Laxmilota, France Inter.
Du football avec les huitièmes de finale de la Coupe de France et un petit poussé. Versailles qui a un gros appétit. Versailles, club de 4e division, vient de se qualifier pour les quarts face à Toulouse et les professionnels du TFC, actuel leader de Ligue 2. Victoire 1-0 et un exploit pour Versailles. François de Mazière, le maire et premier supporter de l'équipe de foot de Versailles.
On a tellement vibré qu'on s'est tous dressés et qu'il y a eu un geste qui a atterri sur le nez de un conseiller municipal et qui maintenant a une plaie sur le bout du nez. C'est un grand moment parce que c'est une équipe qui se construit avec un entraîneur qui a fait un magnifique travail. Et c'est vrai que Versailles est connu pour la culture, ben voilà, elle est aussi connue pour le sport, parce que c'est une ville de sport. L'intérêt de la Coupe de France, hein, c'est ce côté très sympathique, hein, avec une équipe qui effectivement n'était pas celle qui était la mieux classée et qui a aujourd'hui gagné. Ben c'est beau de voir ça et puis c'est une fierté pour la ville.
François de Mézières, le maire heureux de Versailles sur France Bleu Paris. Notre rendez-vous du samedi 19h avec Ma Vie Connectée. Bonsoir Christine Siméone.
Bonsoir.
Alors ce soir on parle télétravail et vous avez rencontré Gaëlle Châtelain-Berry, auteur du livre Le Manager Bienveillant 2.0, pour bien accompagner son équipe à l'heure du télétravail et du numérique, Christine.
Désormais, dans les entretiens de recrutement, il arrive fréquemment que les candidats demandent à connaître l'accord de télétravail. C'est devenu courant et Gaëlle Châtelain-Berry fait un état des lieux du monde du travail avant de donner des conseils aux responsables des entreprises concernant cette nouvelle pratique.
Et alors, après 2 ans de pandémie et beaucoup de télétravail, on est quand même à 12% de burn-out chez les salariés, selon une étude d'Opinionway. Le télétravail, Christine, est-il vraiment une solution ?
Le burn-out constaté après 2020 corrobore les études d'avant la crise. La France est le numéro 2 mondial du burn-out. Il n'y a que le Japon qui fasse mieux que notre pays sur ce terrain-là. C'est vrai que le malaise semble général et ce n'est pas de la faute du télétravail uniquement. Écoutez Gaëlle Châtelain-Berry.
En septembre dernier, 45% des salariés se déclaraient en détresse psychologique. C'est fort quand même, parce qu'il y a des incertitudes dans les entreprises, parce que les managers sont pas encore adaptés, parce que le télétravail n'est pas encore rentré dans une forme de norme. Je crois que les entreprises vont devoir travailler sur le fait de rassurer un peu psychologiquement leurs salariés.
Gaëlle Châtelain-Berry est prêt à parier que dans les années à venir, avec 2 ou 3 jours de télétravail par semaine, les choses devraient s'arranger.
Oui, mais cela ne paraît pas si évident que cela au premier abord. Est-ce que c'est aussi simple que ça, Christine ?
Non, ce n'est pas si simple. Il va falloir que les managers et les responsables révisent leurs habitudes. Par exemple, réapprendre à parler.
À la fin du premier confinement, il y a plein de managers qui ont juste oublié de demander à leurs équipes « Hey, vous allez bien ?» Certains managers ont découvert pendant la pandémie on a une fonction et un super pouvoir extraordinaire, la parole. En fait, les émotions sont plus un gros mot. Et donc, on va demander aux managers juste de demander aux salariés de checker si ça va bien leurs émotions, s'ils veulent faire du télétravail ou pas, au lieu d'imposer, de dire « t'auras 3 jours de télétravail ». Non, mais moi, je veux pas. Tais-toi, 3 jours. Je crois qu'on a changé véritablement dans l'entreprise l'attente d'écoute. Donc, c'est avant tout le bon sens qui fait qu'on est un bon manager. Je crois qu'un manager doit avant tout s'intéresser à l'humain.
Parler par téléphone ou en direct, interroger, écouter et surtout faire confiance. Voilà les conseils de Gaëlle Châtelain-Berry. Les managers qui ne croient pas au télétravail ne font généralement pas confiance à leur équipe, qu'elle soit en présentiel ou à distance. Il leur conseille de donner plus d'autonomie à leurs équipiers et il leur conseille aussi d'en finir avec notre rapport très français infantilisant au temps. Inutile de faire acte de présence en Zoom ou au bureau quand le travail est terminé.
Ma Vie Connectée, Christine Siméone, à retrouver et à lire sur franceinter.fr. Le temps pour demain.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski.
Demain, le ciel aura un meilleur aspect du nord de la Loire à la frontière avec la Belgique, avec une alternance de gris et de bleu. Sur les Alpes et le bassin méditerranéen, le soleil va une nouvelle fois largement s'imposer, mais avec un mistral ultramontané à vent d'ouest très turbulent sur la Corse. Enfin, partout ailleurs, ce sera souvent bien gris avec des visibilités très réduites au lever du jour entre les Pyrénées et le Massif central où les températures vont descendre entre moins 1 et moins 4 degrés au réveil. Donc des brouillards souvent givrants alors qu'ailleurs on évitera les gelées. L'après-midi, il est prévu 6 degrés de l'Ain à la Haute-Marne, 7 à 8 en Rhône-Alpes, du centre à l'Alsace et près de la Garonne, 9 à 12 près de la Belgique, du bassin parisien à la Bretagne et des Charentes au pays nantais. Il fera 15 à 17 de Bastia à Montpellier et toujours une vingtaine de degrés aux environs de Perpignan.
Jean-Michel Golinski de Météo France.